Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute d'Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. Nous sommes le jeudi 27 novembre. En première partie d'émission, Sonia réalisera l'interview et juste après la pause musicale, on se retrouvera pour une petite série de chroniques sur des spectacles qu'on a vus hier soir. Voilà, donc là je te laisse la parole Sonia, c'est à toi.
Merci, alors aujourd'hui je reçois Virginie Léglise. Bonjour à vous.
Bonjour Sonia.
Vous êtes responsable de la vie associative et de la parentalité au sein de l'institution UDAF. Donc, c'est une institution qui existe depuis 1946. Elle est engagée avec et pour les familles. Vous œuvrez auprès des familles et des personnes vulnérables avec une vingtaine de services et actions différentes. L'UDAF regroupe aussi une quarantaine d'associations familiales. On parlera au cours de l'interview de la Maison des Premiers Liens qui a ouvert début novembre. Mais avant ça, c'est quoi l'UDAF ?
Alors l'UDAF, donc c'est l'Union départementale des associations familiales. Donc c'est une, comme vous l'avez dit, une institution qui va bientôt fêter ses 80 ans l'année prochaine. Donc nous sommes une association qui regroupe des associations familiales du département. Il existe une union nationale et donc des unions départementales dans chaque département. Il existe également des unions régionales. Et donc nos missions, qui sont inscrites dans le code de l'action sociale et des familles, ce sont de représenter les familles et de défendre leurs intérêts via différentes façons, et notamment à travers la mise en place d'activités, de services justement pour les familles.
Très bien. Pour ce qui est de l'UDAF Somme, donc l'institution de l'UDAF Somme, il y a quatre missions. D'abord, un rôle de porte-parole pour les familles. Donc, qui est porte-parole et auprès de qui ?
Alors, notre institution donc siège dans différentes instances, donc auprès de l'État et des pouvoirs publics. Donc toutes les instituts, les endroits où on... Alors en fait, je vais vous parler en même temps de la représentation, en même temps, parce que le porte-parole va avec la représentation des familles. Et du coup, toutes les instances où on parle de famille, donc autant vous dire qu'il y en a beaucoup. L'UDAF est reconnue légalement comme représentant. Donc on siège dans différentes instances, que ce soit des instances sociales, comme la CAF, la CPM, donc la Caisse des allocations familiales, pardon, Caisse primaire d'assurance maladie. Mais on siège également dans les hôpitaux, aussi chez les bailleurs sociaux, ou aussi à l'éducation nationale, enfin vraiment dans toutes les instances où il est question de famille.
D'accord. Et comment est-ce que vous entrez en contact avec les familles ? Enfin, comment vous faites le lien entre... Comment il y a un lien entre vous et les familles ?
Alors, ce qui fait aussi notre force, c'est nos associations familiales. Donc, en fait, nous, nos adhérents, ce sont les associations qui, elles, ont des familles qui sont adhérentes. Donc, on a déjà toutes, donc les 42 associations exactement qui représentent les familles. Mais en fait, on représente toutes les familles quand même du département et pas seulement celles qui sont adhérentes. Donc, comment on les directement, en fait, on les touche. Donc, par exemple, quand on siège dans les conseils de surveillance ou les comités des usagers, j'essaie de pas donner d'acronyme. en fait, le lien direct, c'est les usagers de l'hôpital qui remplissent les questionnaires, etc. Quand on est à la CAF, c'est pareil, on travaille en lien avec la CAF. Donc, en fait, c'est vraiment les remontées des familles, que ce soit directes ou indirectes, via les institutions ou via nous, nos services également. C'est grâce à tout cela qu'on peut porter leur parole. Et quand il y a vraiment des sujets spécifiques, après, on peut mener des enquêtes, on peut se rapprocher vraiment du public type. Par exemple, si c'est sur un lieu précis, on peut se rapprocher du lieu. Si c'est sur une thématique, on va se rapprocher des familles qui gravitent autour de cette thématique. Voilà, on a vraiment plusieurs entrées qui nous permettent de relayer la parole des familles.
D'accord. Et donc, ça amène à la deuxième mission, c'est expert de la réalité de vie des familles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rôle ?
Oui, du coup, en tant que représentant des familles, on s'efforce d'être au plus près d'elles. Et donc, auprès de nos services, on essaye d'accompagner les familles qui en ont besoin. Et puis après, à travers nos activités, donc que ce soit les nôtres propres à l'UDAF ou nos associations adhérentes, je n'oublie pas de les citer parce que c'est vraiment elles aussi qui font un travail important sur le terrain, c'est justement comment on observe en fait les familles et puis on peut relayer ce qui nous est remonté, ce qu'on observe.
Très bien. Et en dehors de la Maison des Premiers Liens, par exemple, vous faites des services donc aux familles et aux personnes vulnérables. Vous avez quel type de service, par exemple, pour les personnes vulnérables ? Est-ce que c'est la même chose que pour les familles ?
Oui, alors en fait, déjà pour nous, les personnes vulnérables, c'est aussi les familles, en fait. Pour nous, elles sont incluses, parce que les familles, c'est les familles plurielles, en fait. Que ce soit des familles nucléaires, des familles monoparentales, des familles des personnes seules, voilà. Donc on a en fait différents pôles au sein de l'UDAF de la Somme. En fait, on a réparti nos activités comme ça. Donc on a un gros pôle de protection des majeurs protégés. Voilà, donc là c'est spécifique, hein, c'est des mesures judiciaires. Ensuite, on a un gros pôle de prévention et de protection de l'enfance. Donc là également, on a des mesures judiciaires, mais du coup dans le cadre de la protection de l'enfance, qui sont plus ciblées à l'enfant. Et parfois, c'est élargi aux familles. Ensuite, on a un pôle un peu d'action familiale et solidaire. Donc là, on est plus sur du droit commun. Donc, on accompagne les familles sur des questions budgétaires, sur de l'accompagnement au logement, également sur de l'habitat inclusif. Et il me semble, et sur la médiation, voilà, familiale également, c'est ce que j'allais oublier. Et puis, le dernier pôle d'activité, donc c'est tout le côté institutionnel associatif, donc la vie associative. Donc, que l'on mène avec nos associations adhérentes, et le volet parentalité, où effectivement, donc aujourd'hui, on a des actions parentalité, on en a deux. On a également trois lieux d'accueil enfants par an, qui sont donc deux fixes sur Amiens et un qui est itinérant sur le département. Et donc, le dernier né, la fameuse maison des premiers liens qu'on vient d'ouvrir depuis le 3 novembre.
Très bien, donc il y a aussi des... Alors, vous avez aussi le rôle d'animateur associatif. En quoi ça consiste exactement ? C'est créer les associations, c'est les gérer ?
Alors, créer, c'est possible. Alors, les gérer, non, puisque les associations sont indépendantes. Elles adhèrent à l'UDAF, mais elles sont indépendantes. Elles sont libres de faire leur propre activité. Maintenant, animer ce réseau, justement, c'est comment on met en lien ces 42 associations qui adhèrent à l'UDAF et comment on permet de faire réseau, justement, au sein du département, comment on travaille ensemble. Qu'on fasse pas les uns et les autres des choses différentes ou identiques, mais sans se parler, en fait. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire un réseau, de faire ensemble et de créer, pourquoi pas, effectivement, des fois, on a des thématiques, des personnes qui souhaiteraient créer des associations et, familiales. Et nous, justement, on est là pour les accompagner, s'ils veulent, dans leur démarche, pour créer ce genre d'association. Et puis, bah, pour celles qui sont en place, on est également là pour les aider, si elles veulent mettre des choses, des conférences en place ou d'autres événements. Elles peuvent le faire seules, bien sûr, hein, mais en adhérant à l'UDAF, elles ont un réseau et on est plus fort ensemble, en fait.
D'accord. Et donc, bah, y a des thématiques assez variées. Ça va de la justice aux associations. Qui exactement... quel professionnel vous avez au sein de l'UDAF ?
Alors, au sein de l'UDAF, on a beaucoup de travailleurs sociaux. Mais qui sont d'origine totalement différente, hein, parce que je vous ai dit, on travaille sur les personnes vulnérables, donc plutôt des majeurs. Ensuite, sur la protection de l'enfance, donc là, on travaille avec des mineurs. Donc, on peut avoir vraiment des profils comme des éducateurs spécialisés pour les enfants, aussi des éducatrices de jeunes enfants, pardon. Ensuite, du côté pour les majeurs, on peut avoir donc des assistantes sociales, des juristes également. Enfin, on a vraiment tout un tas de profils différents, tout ça au service des familles. Et puis après, on a d'autres profils particuliers. Là, du coup, sur la maison, puisque je pense à ça, donc on a deux profils, hein. On a une puéricultrice et une éducatrice spécialisée qui interviennent sur la maison. Et puis, voilà, on fait aussi des choses internes. On a un service compta, un service com. Enfin, voilà, il y a aussi des profils autres qui accompagnent tous ces services aux familles, quoi, pour que ça marche au mieux.
D'accord. Et justement, vous êtes responsable de quoi, est-ce que vous vous occupez exactement au sein de l'UDAF ?
Alors, du coup, je m'occupe de tout le volet associatif, vraiment, donc la mise en lien des associations, la recherche de nouvelles associations, l'animation du réseau, la création aussi. Alors, c'est des choses qui sont plus compliquées, mais c'est des challenges intéressants. Et puis, donc, tout ce côté-là, donc dans ce pôle-là, il y a également tout ce qui est la communication interne et externe à l'UDAF. On a également deux actions lecture, Lire et faire lire, que l'on co-anime avec la Ligue de l'enseignement, et Lire ensemble, que du coup on anime seul cette fois. Et puis donc le dernier volet, c'est la parentalité, avec les actions que j'ai citées tout à l'heure.
Très bien. Maintenant, on passe à la maison des premiers liens. Donc lundi 3 novembre dernier, vous avez ouvert un nouvel espace, maison des premiers liens, en 17 rue de la Délivrance à Amiens. Pourquoi le nom maison des premiers liens ?
Eh bien, parce qu'en fait, après de multitudes de recherches, on a cherché qu'est-ce que ça représentait pour nous. Donc, on a mis toute l'équipe de la vie associative au travail, autour d'un brainstorming. Et en fait, avant tout, c'est une maison parentalité. En fait, c'est un lieu ressource parentalité. Et on a une prédominance sur la question des 1000 premiers jours. Donc, les 1000 premiers jours, c'est un rapport qu'a fait Boris Cyrulnik il y a quelques années. Et ce rapport disait que voilà, les 1000 premiers jours, c'était la période cruciale dans la vie d'une personne où plein de choses se soudaient dès le démarrage. Et donc, du coup, comme nous, on ne voulait pas forcément que soit ciblé que 1000 premiers jours, et on voulait aussi que ça parle de qu'est-ce qu'on en fait de ces 1000 jours. C'est l'arrivée de l'enfant avec le parent. C'est un lieu également qui a destiné des professionnels, donc voilà. Et très vite, on est arrivé autour du lien, autour du mot lien, et voilà, on s'est dit qu'on voulait une maison, on voulait que ça représente les liens, et voilà, et du coup, à force de tourner dans plusieurs sens, la maison des premiers liens est née.
Très bien, et est-ce qu'il y a une raison en particulier à l'ouverture de ce lieu ?
Eh bien, la raison, oui, en fait, c'est un lieu. Alors déjà, c'est un projet sur lequel l'UDAF travaille depuis déjà 2022. Donc, ça ne se construit pas en une journée. Dans la Somme, il y a plein de choses qui existent, mais c'est vrai qu'il manquait un peu ce lieu ressource, un lieu central dans lequel tous les parents peuvent venir et se renseigner, se ressourcer, chercher des réponses à des questions ou pas, ou des réponses à des demandes d'information. Et voilà. Et donc nous, l'UDAF, on s'est dit, on est quand même l'institution familiale départementale, donc pourquoi pas porter ce sujet. Donc on a travaillé sur le sujet, etc., etc. On s'est rapproché des partenaires, on travaille notamment avec la Caisse d'allocation familiale. On a également Amiens qui nous accompagne. Et puis notre gros, gros partenaire grâce à qui ce projet a vu le jour, c'est notamment le département de la Somme et l'État. Donc, dans le cadre du pacte des solidarités qui a été signé en fin d'année dernière, on a pu justement ouvrir cette maison. En fait, c'est une entité... je m'écarte un peu, mais c'est une volonté de plusieurs institutions, également de nous, par rapport à ce que l'on a observé, également au niveau du national, puisque ce rapport dont je vous ai parlé de Boris Cyrulnik, c'est quand même quelque chose qui avait été demandé par le président par rapport à la petite enfance. On est dans un cadre où il y a aussi la création du service public de la petite enfance depuis le 1er janvier de cette année. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'il fallait créer une entité, en tout cas dans la Somme, il n'y en avait pas encore. Et voilà, c'est la synergie vraiment des partenaires entre eux, entre des volontés politiques et des volontés associatives comme la nôtre, qui ont fait que la mise en commun de tout ça a permis la création de cette maison.
Ok, et donc au sein de la maison, vous accueillez les parents et enfants, vous faites des ateliers, des activités. Donc comme vous l'avez dit, c'est surtout les 1000 premiers jours de l'enfant, donc du 4e mois de grossesse aux 2 ans.
C'est ça.
Est-ce que vous avez la volonté de garder ces 1000 jours ou peut-être évoluer
Alors, pour l'instant, on a un cahier des charges qui nous demande de répondre aux demandes des parents dans ce cadre-là. Donc, nous, on répond à ce cahier des charges et on sait qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, voilà, aujourd'hui, on accueille tous les parents. C'est-à-dire que si demain, un parent d'ado ou de pré-ado arrive, on va pas lui dire non, c'est pas pour vous. On va l'accueillir. Ah, par contre, là où on fait la différence, c'est dans la proposition d'action. C'est-à-dire que tout ce qu'on va proposer en activité complémentaire, en plus de l'accueil inconditionnel, ça va être à destination des 1000 premiers jours de l'enfant. Donc, comme vous l'avez dit, du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant.
Et justement, comment est-ce que vous adaptez les activités, les ateliers des nouveau-nés aux 2 ans ?
Alors, en fait, dans notre proposition d'atelier, c'est déjà spécifique, on élabore un planning mensuel et dans ce planning, on essaye de mettre le plus d'informations possible, notamment à l'ouverture, on a fait un atelier éveil musical, c'était pour les 0-1 an. Donc, on avait bien spécifié que c'était 0-1 an. Du coup, là, on va travailler avec la partenaire qui est intervenue pour la prochaine fois. Et la prochaine fois, elle pense faire 0-1 an sur la première heure et elle pense faire 1 an, 2 ans sur la deuxième heure, justement. Parce qu'on ne fait pas forcément, vous imaginez bien, en plus à cet âge-là, c'est vraiment... 6 mois, c'est important. On ne fait pas du tout la même chose en 6 mois. Ce n'est pas comme nous, les adultes, où on peut faire les mêmes choses pendant plusieurs années. Et donc, voilà, c'est vraiment on adapte. Et on propose aux familles pour que les familles puissent savoir exactement quand est-ce qu'elles peuvent venir, quand est-ce que c'est fait pour elles, avec des activités qui correspondent à leur âge. Et dans nos activités, c'est pas seulement pour les enfants, puisque c'est un lieu pour les parents. Donc, on a aussi des activités pour les parents, comme des groupes de parole ou des rencontres autour d'un café. Voilà.
Oui, c'est ce que, justement, j'allais rebondir dessus. J'allais vous demander quel type d'activité il y a pour les mamans en pleine grossesse.
Alors, pour les mamans en grossesse, on a plutôt des choses autour de l'arrivée de bébé. Donc, comment on prépare l'arrivée de bébé au sein du logement. On peut répondre à leurs questions. On leur propose des groupes de parole aussi, parce que des fois, entre mamans, elles peuvent échanger, mais aussi entre papas, parce qu'il ne faut pas les oublier. Ils sont aussi là. Donc, ça peut être aussi des groupes de parole de pères, qui se posent aussi des questions. En fait, nous, on est... Aujourd'hui, on propose des choses parce qu'on vient d'ouvrir. Mais en fait, nous, ce qu'on attend, c'est que les familles viennent et celles qui viennent nous demandent des choses, en fait. Et après, ça, nous, on s'adaptera. C'est-à-dire que si on a de la demande particulière pour une thématique, on va le faire. Voilà. Après, un autre exemple, on a un lien avec la CPM, notamment, qui, une fois par mois, va nous faire des ateliers de prévention. Donc là, au mois de décembre, c'est des ateliers de prévention MT dents, parents et enfants. Et après, on va aussi travailler sur les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est pour tous, en fait. C'est comment prévenir et dire ce que c'est, parce que c'est un mot, on se dit, ouais, c'est quoi, on ne comprend pas trop ce que c'est, mais justement, c'est comment toucher des choses comme ça, faire la prévention, comprendre ce que c'est et l'adapter au sein du logement, si besoin. Et puis voilà, après, on partage avec bébé, par exemple, ça peut être quand bébé est là, mais ça peut être en amont, parce que des fois, il y a des parents qui veulent se préparer avant. Voilà, sophrologie aussi, en attendant bébé, ou avec, une fois qu'on a bébé, voilà, il y a vraiment, le champ des possibles est ouvert.
Et justement, donc il y a un centre de ressources aussi, oui, pour les parents et les professionnels. Qu'est-ce qui contient exactement ce centre de ressources?
Alors, du coup, le centre de ressources, il est très très large, en tout cas il se veut très large. Maintenant, on est en train de le construire, donc on a encore aussi beaucoup de choses à apprendre. Mais par exemple, on peut informer sur des choses toutes simples comme j'attends un enfant, quelles sont mes démarches. Donc les démarches, on le sait, hein, c'est à faire auprès de la CPM, mais nous on peut aiguiller les parents, même les accompagner à faire les démarches informatiquement. On a aussi un poste informatique pour les aider, par exemple, à ouvrir mon espace santé ou à faire ma déclaration. Enfin voilà, ça part de là. Mais on peut également les accompagner sur des questions par rapport au mode de garde. Voilà, donc c'est pas nous qui allons faire, parce que notre but, c'est aussi de travailler avec, encore une fois, faire réseau. Alors, pas le même réseau que tout à l'heure avec les familles, mais réseau avec les institutions. Et en fait, par exemple, si quelqu'un cherche des questions sur un mode de garde, nous, on va relayer vers monenfant.fr ou vers les relais petite enfance qui sont gérés par les CAF. Et du coup, c'est puisque c'est eux, les RPE, donc les relais petite enfance, qui sont spécialisés, qui ont les listings des crèches, qui ont les listings des assistants maternels disponibles. Voilà. Donc nous, on est vraiment relais, en fait. Donc, ressources, parce qu'on doit avoir toutes les informations possibles, même la maternité. Si quelqu'un arrive à Amiens, dire bah, moi je cherche une maternité, bah, on va lui dire voilà, il existe telle maternité. Voilà. Donc c'est ça en fait la ressource, c'est comment donner de l'information pour que les parents puissent après faire leur choix ou s'orienter vers les personnes qui font les actions. Voilà.
D'accord. Et justement, donc, il y a ce centre de ressources. Vous avez parlé de prévention. Par exemple, contre les perturbateurs endocriniens. Est-ce que si une personne qui n'est pas parent, mais juste curieuse sur la question, peut assister, peut venir à l'UDAF?
Je vous dirais que, comme ces ateliers-là, certains ateliers sont sur inscription. Bah, je vais vous dire, si jamais c'est 10 personnes et puis qu'on a 8 personnes et qu'il y a 2 personnes qui veulent profiter de l'atelier, pourquoi on leur dirait non? Mais prioritairement, c'est sur le public que 4 mois grossesse, 2 ans de l'enfant. Mais je dirais qu'après, voilà, à partir du moment où on est intéressé, qu'on est parent, après on accueille aussi des parents, j'ai oublié de le dire, mais c'est important, qui sont aussi, qui ont parfois envie de devenir parents, mais qui sont face à des difficultés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des parents adoptants, donc ils ne sont pas du tout ni dans les 4 mois de grossesse ni dans les 2 ans de l'enfant, mais ils ont envie d'être parents. Donc on peut aussi être relais, vous voyez, ou avoir des personnes qui n'arrivent pas à être parents et qui se posent des questions et qui voudraient être orientées, soit vers du soin, soit vers des professionnels ou des groupes de parole spécifiques. Voilà, il y a aussi ce côté-là où, qui peut entrer dans le public, qui peut venir dans la maison.
D'accord, donc c'est plus un rôle de conseil, d'écoute, de relais.
Tout à fait, c'est une maison de ressources, d'orientation, d'écoute, de parole, d'échange, parce que aussi entre pères, père AI, donc la père aidance. Donc c'est aussi un lieu aussi où les parents, entre eux, Parce que on n'a pas non plus toutes les réponses de science infuse. Hein. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt partager les expériences les uns des autres, et puis pour que les personnes puissent trouver vraiment réponse à leurs questions. Et voilà, si on peut faire ça, c'est génial.
Très bien. Et comment est-ce que vous aimeriez que la maison des premiers liens évolue ?
Alors. Comment ? On est déjà en train de travailler sur l'évolution, parce que déjà, donc, il y a le lieu fixe, qui est Amiens, puisque bon, notre département, il est comme ça, c'est vrai que tout se passe à Amiens, mais il ne faut pas oublier tout ce qui se passe en dehors d'Amiens. Donc là, on est déjà en train de travailler sur une itinérance sur la communauté de communes du Pays du Coquelicot, donc c'est à peu près vers Albert, voilà. Et puis la deuxième communauté, c'est la communauté d'Aglo Baie de Somme, donc là, on est plutôt sur Abbeville et la Côte. Donc voilà, donc ça c'est deux priorités toujours qui rentrent dans notre cahier des charges, hein. Vous avez compris hein, qu'on avait un cahier des charges. Donc on va se diriger vers ces deux territoires-là, on va proposer aussi des activités, des accueils inconditionnels. Et puis bah, après, donc ça nous emmène dans le cadre du pacte des solidarités que j'ai cité tout à l'heure jusqu'en fin 2027. Mais en même temps, on va essayer de travailler sur le développement peut-être plus vers l'est du département ou le sud. Mais en tout cas, notre objectif, c'est de pouvoir proposer ça à toutes les familles du département.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous suivre sur les réseaux ou un site internet ?
Oui, alors déjà, il y a le site internet de l'UDAF. Donc, c'est udaf80.fr, avec les trois W devant que j'ai oublié. Et puis après, sur nos réseaux, donc, on a une page Facebook, UDAF de la Somme. La page des maisons la Maison des Premiers Liens, elle est quasiment en ligne. N'hésitez pas, elle va venir, n'hésitez pas à la suivre. Et puis après, on a aussi un compte LinkedIn UDAF sur lequel on met des infos et un Insta qui va arriver aussi prochainement.
Très bien. Bah, merci beaucoup Virginie d'avoir répondu à mes questions.
Bah, merci Sonia pour l'invitation.
Tu vois ce que je veux dire? Mon gars, va pourquoi tu trembles, pourquoi tu tanks, tu tiens plus droit. Je dois capter des gens dans la soirée, écrit sur mon emploi du temps. Tu te poses des questions dans les toilettes, tu te poses des questions devant moi comme les douaniers. Ça y est, un salaire de 4 sur le poignet. Le respect se perd, il a canné. Yeah. Je suis très calme en général de guerre. Toute la journée ou très tard, je sais. Mon bébé, si je prends million de liasses, je deviens direct une million, je yasse. C'est pas cool de leur souhaiter la mort. S'ils continuent comme ça, mon frérot dit qu'ils vivront de moi. Un peu moins en fonction de ce qu'ils diront de moi. Je prends la vie par le chignon, je maille. Je prends la vie par les vœux sous la table. Tu préfères la défense ou l'attaque? Dans les deux cas, je sors les canons. La concurrence est morte sous la table. Je suis en avance de 2 ans sur l'heure de ta mort. Si j'ai le mort, je vais laisser qu'une odeur de cadavre. T'as juré sur l'honneur de ta race. T'as perdu, je suis dans le cœur de ta maman. Si t'as, je fais du beurre ou un meurtre d'habillage. Ça se passe clairement à fond quand c'est papa qui rappe. Viens, on ride la moto d'Akira. Je t'ai servi le meilleur plat, j'ai Ita Takimas. Pourquoi tu t'es pris pour c'est pas quoi? Y'aura personne pour sauver ta poire. Si vous faites pas le truc correctement, cette vie vous baisse très très fort et vous laisse à poil. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ok, ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Non, ok, ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Non, ok, ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Ok, ça. Ok, tu vois ce que je veux dire? Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Y'a des gens qui sont costauds de nez, sans autres qui disent qu'ici y'a trop de mets. Sans je vois le verre à moitié plein, je le dé. Sans je vais augmenter le ratio de mes chances. Enfoiré des palis parce que ton banquier te fait des sourires quand t'es à des coups. Vert, je suis le chemin, fils, sortez les poux. Belle, je suis la preuve, vous prêt à la découpe. Celle qui m'a vu naître a pas d'a priori. Je suis dans le cabriolet, j'écoute Cabrioli. Dans mon secteur, les numbos sont pas bioniques. Il a perdu son âme quand il a dit all-in. Je suis la fusion Nirvana et Wu. J'ai eu de rage, j'ai dit voilà mais où t'es. Je me suis battu contre Draman et U. Go, aucune diff entre une droite et une. Gauche Maria du boucan t'es pas ready. Elle a gobé élargi sa rétine. Pour un X ou un Wico ça rétine. Les petits sont traits du père, c'est pas internet qui ira les éduquer. J'ai ramassé du pèse mais j'ai laissé du terre. Je suis insolent, je fais goûter du texte. Je m'inscris au main event, t'es dégoûté du père. Ma guitare c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RTV. Préviens tes cousines, ramène toutes tes fesses. Mon album va déclencher la haine des frères. Ma guitare c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un Uzi au RTV. Préviens tes cousines, ramène tes fesses. Mon album va déclencher la haine des frères. Ça, ok, tu vois ce que je veux dire? Ok, ça, ok, tu vois ce que je veux dire? Ok, ça, ok, veux dire. Ok, ok, tu vois ce que je veux dire. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le galion, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle.
C'était Slide de l'artiste Sopico. Vous êtes à l'écoute d'InfoClub Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative. Et je me tourne vers Margot et Sonia qui sont toujours dans le studio. Puisque hier, donc, nous sommes allés voir des spectacles, alors à la fois à la Maison de la Culture et aussi à la Comédie de Picardie. Alors on va s'écouter d'abord la chronique d'Aline, puisqu'elle est en formation pendant 2 jours. Donc elle nous a quand même enregistré sa petite chronique hier soir pour que vous ayez quand même son avis sur Theater of Dreams, qui était un spectacle de danse. Voilà, je vous laisse avec cette petite chronique d'Aline.
Hier soir, en sortant du grand théâtre de la Maison de la Culture, une pensée m'a traversé l'esprit. Si un jour je me souvenais de mes rêves avec précision, en son et en mouvement, il ressemblerait probablement à Theater of Dreams, la nouvelle création de Ofès Schechter. Parce qu'on en ressort avec la sensation d'avoir traversé quelque chose d'onirique, de profondément intérieur, comme une plongée dans un subconscient en mouvement permanent. Dès les premières minutes, ce qui s'impose, c'est la musique. Elle devient vraiment un personnage à part entière. Elle ne se contente pas d'accompagner la danse, elle la modèle, la dirige, la propulse. Le début est lourd, presque oppressant, des basses massives, une atmosphère inquiétante, quelque chose de pachydermique qui saisit le public. Puis le rythme se transforme, devient plus rapide, plus lumineux, jusqu'à faire danser la salle entière lorsque les interprètes descendent et invitent le public à les rejoindre. Un moment inattendu, généreux, qui rappelle que l'émotion est une affaire collective. Ensuite, je tenais à vous parler des corps. Ils ne cessent jamais de se transformer. Parfois, ils sont un groupe compact, presque un organisme unique, puis un corps se détache, puis deux, puis trois. La chorégraphie joue sans cesse avec cette tension entre unité et singularité. On reconnaît par éclat des gestes presque de danse classique, avant qu'ils se déforment, se tordent, deviennent nerveux et vivants. Il y a des séquences plus sombres, presque macabres, d'autres d'une grâce évidente. Malgré l'impression de chaos, tout est d'une précision millimétrée. Les danseurs et danseuses semblent improviser, mais chaque entrée, chaque sortie, chaque synchronisation est parfaitement calculée. La lumière est un autre élément structurant. Elle sculpte littéralement la scène. On passe du noir complet à un blanc éclatant en une fraction de seconde, puis au rouge dense et mystérieux, au bleu tendre et presque apaisant. Sans décor réel, ce sont les éclairages qui deviennent l'architecture du spectacle, créant des tableaux successifs, nets, découpés, comme autant de fragments visuels d'un rêve. Et puis, il faut parler des rideaux. Leur utilisation est vraiment singulière et donne au spectacle un rythme particulier. Ce ne sont pas des rideaux qu'on ouvre et qu'on ferme, ce sont des pans qui bougent, glissent et s'entr'ouvrent. Il découpe l'espace, crée des zones visibles, d'autres cachées, joue constamment avec notre frustration et notre curiosité. Il transforme la scène en un espace malléable, changeant, comme si l'on passait d'un rêve à un autre, d'un souvenir à une image fantasmée. On aperçoit des fragments, des scènes brèves, des moments qui surgissent puis disparaissent. L'ensemble, musique live, danse hyper expressive, lumière sculpturale, rideau mobile, compose un tableau cinématographique qui ne cesse de se réinventer. On navigue dans un univers où les émotions se percutent, où le réel et l'imaginaire s'entremêlent, où la poésie surgit dans les endroits les plus inattendus. Theater of Dreams porte bien son nom. C'est un rêve qui s'expérimente en pleine réalité pour les spectatrices, un rêve qui déroute autant qu'il émerveille. Et en quittant la salle, on garde en tête des éclats de lumière, des silhouettes en mouvement, des basses qui résonnent encore, comme ces images d'un rêve qu'on tente de retenir avant qu'elles ne s'effacent.
Merci Aline pour cette chronique extrêmement intéressante. Et je me tourne vers toi Sonia, puisque tu as accompagné Aline hier à la Maison de la Culture.
J'ai pas plus de choses à dire, à part que on était au théâtre, mais avec le jeu des rideaux et des lumières, on se serait vraiment cru au cinéma. Et que la pièce sera jouée ce soir, jeudi 27 novembre à 19h30 à la Maison de la Culture.
Super. Alors, Margot, c'est à toi cette
Hello.
Fois-ci. Tu as été à la comédie... Enfin, nous
on
allait, sommes
on
allés
été, ouais.
À la comédie de Picardie hier soir.
On avait tous des spectacles hier soir. On était à droite à gauche à
c'est
Amiens.
Ça.
Et donc, du coup, oui, pendant que Sonia et Aline étaient à la MCA, Colline et moi, on était à la comédie de Picardie pour un concert de l'orchestre de Picardie. Alors, on a d'abord assisté au quintet, donc 5 musiciens, à 2 violoncelles en ré mineur, mouvement 2 et 3 de Théodore Gouvy, avant qu'un 6e artiste ne les rejoigne pour interpréter le sextuor à cordes numéro 2, OP36 de Johann Brahms. Un peu compliqué tout ça, parce que d'habitude je vous parle de rock ou d'électro, le classique c'est pas mon point fort, mais quand il s'agit de violon et violoncelle, mes oreilles et mon cœur sont grand ouverts. J'étais sûre de pas me tromper ce soir-là, sûre d'avoir fait le bon choix pour passer une bonne soirée. Alors avec Colline, on s'est assises, puis j'ai fermé les yeux pour me laisser transporter par cette parfaite harmonie. Dans la salle, silence complet, tout le monde avait l'air très bien calé sur les classiques, moi je ne les connaissais pas, mais j'ai adoré. Avec ce genre de musique, pas besoin de mots pour transmettre un bouquet de sentiments. Les musiciens, habités par ces nombreuses mélodies, semblent presque sortir de scène comme s'ils entraient dans un autre monde en nous invitant à les suivre. Dans cette transe musicale, j'ai voyagé avec eux comme si je glissais sur les cordes de leurs instruments pour partir là où le temps n'existe plus. Étonnamment, personne n'applaudissait entre les morceaux, ça m'a un peu surprise. Enfin, si je ne lançais pas les applaudissements, personne ne l'aurait fait. Les autres spectateurs se sont difficilement joints à moi, sauf vers la fin où un tonnerre d'applaudissements retentit dans la salle. « Bravo !» criait une dame assise à côté de moi avant de me sourire. J'ai compris à ce moment-là que j'étais novice en matière de concert classique, c'est parce que ça l'a fait rire. Alors on allait se lever avec Colline et partir. Puis en fait, le concert a repris. Donc voilà, on a assisté au grand final de ce sextuor à cordes et c'était éblouissant. On les a félicités à nouveau. Pour le coup, vraiment à la fin, avant qu'il ne quitte la scène pour de bon. Donc je me suis tournée vers cette gentille dame à côté de moi qui m'avait souri plus tôt pour lui demander pourquoi personne n'applaudissait entre les morceaux. Bon, j'ai pas trop compris parce que ça me dépasse un petit peu tout ça, les codes du classique et tout. J'ai l'habitude de crier pendant des heures sur de l'hyperpop, donc ça me connaît pas trop. Elle m'a expliqué qu'en fait, ça dépendait des morceaux. Visiblement, certains morceaux, c'était pas la peine d'applaudir puisqu'on attendait le suivant. Et puis, enfin bon, j'ai pas trop compris, mais il faut connaître tous les classiques. Et en tout cas, moi, je les connaissais pas. Bon, elle m'a aussi dit que les musiciens étaient très heureux lorsqu'on cassait un peu les codes et qu'on applaudissait entre les morceaux. Et c'est vrai que ça avait l'air de leur faire plaisir. Donc, j'ai un peu enfreint les lois des concerts classiques, mais ça a fait sourire tout le monde. Et voilà, je suis rentrée me coucher, les étoiles plein les yeux. Une chose est sûre, j'y retournerai sans hésiter pour un voyage dans le temps à nouveau. Je remercie donc chaleureusement l'orchestre de Picardie pour cette belle soirée. Ils sont d'ailleurs en tournée et proposent plusieurs dates dans la région. Vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux et sur leur page internet. Et la prochaine fois qu'on les retrouve à la Comédie de Picardie, c'est le mercredi 4 mars à 19h30 pour de la musique française du début du XXe siècle. Voilà.
Tu iras pour applaudir entre les morceaux ?
Oui.
Non, c'est vrai que c'était très surprenant quand même.
Ouais, particulier.
Merci beaucoup Margot, merci Aline, merci Sonia pour ces petites chroniques extrêmement intéressantes. C'est déjà la fin d'Info Club Sandwich, déjà. Ça passe très très vite. Merci à vous, chers auditeurices, de nous écouter et de nous avoir écoutés. Et on se dit à demain pour le dernier Info Club Sandwich de la semaine. On se quitte avec Faye Mehana du groupe Patience.
He lives so differently. You have Thank you.